Une feuille de route pour le gouvernement. Son président Alcide Ponguet en a fixé les grandes orientations ce matin dans sa déclaration de politique générale devant les élus du Congrès. À quelques jours de son arrivée sur le territoire, Manuel Valls était auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Outre-mer s'exprime notamment sur les conditions de sa prochaine visite. La rentrée solennelle de la Cour d'appel et du tribunal de première instance ce matin. En 2024, le nombre de nouvelles affaires a plus que doublé. Un échouage massif sur les côtes de Tasmanie de fausses orques, 157 en tout. Les 90 survivantes vont être euthanasiées. Et puis en tennis, le Calédonien Maxime Chazal jouera cette nuit pour nous les huitièmes de finale du Challenger de Brazzaville au Congo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région pacifique. Assainir, relancer et faire ensemble, c'est la feuille de route fixée par Alcide Ponga dans sa déclaration de politique générale. Le président du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est exprimé pendant près d'une heure ce matin lors d'une séance solennelle au Congrès, en présence des représentants de l'État et des corps constitués. On en retient notamment, Elisabeth Noir, une volonté de pragmatisme.
L'action de ce gouvernement se résume en un mot, le pragmatisme, déclare effectivement Alcide Ponga, qui déclare également que le gouvernement va tout mettre en œuvre pour sauver la Nouvelle-Calédonie. Mais le 18e gouvernement doit faire face à de nombreuses contraintes et son président a commencé par dresser un tableau sans concession de la situation.
Nous traversons un moment clé pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Jamais nous n'avons connu une crise aussi grave, ni un avenir aussi incertain. L'économie est à terre, les finances publiques sont exsangues et ne permettent plus d'assurer la continuité des services publics. La confiance entre eux, nos citoyens est brisée et les liens entre les institutions sont plus distendus que jamais. Face à cette situation, nous n'avons d'autre choix que nous hisser à la hauteur de nos responsabilités. Mais notre histoire témoigne de notre capacité à nous relever et à reconstruire ensemble, portés par la volonté et la solidarité.
Les Calédoniens attendent des décisions fortes, des actions claires et des résultats concrets, poursuit Alcide Ponga. Et pourtant, le gouvernement ne dispose que de 9 mois avant les prochaines élections provinciales.
9 mois, c'est court, mais c'est une période cruciale. Ce n'est pas un simple exercice de transition, mais un moment décisif pour garantir la continuité de l'action publique, rétablir la confiance entre les institutions et surtout répondre aux attentes des Calédoniens. Cette urgence concerne toutes les collectivités. Nos populations souffrent et chacun, dans son domaine de compétences et sur son territoire, détient une part de la solution. La complémentarité et la collaboration sont des clés de réussite dont nous devons nous saisir. S'agissant du gouvernement, notre ambition est claire. Tout mettre en œuvre pour sauver la Nouvelle-Calédonie, mais aussi et surtout raviver une ambition commune. Notre mission ne consiste ni à colmater les brèches, ni à gagner du temps. Il ne s'agit pas de restaurer l'ordre ancien, mais de bâtir les bases d'un avenir renouvelé.
Tout mettre en œuvre pour sauver la Calédonie, et pour cela il faut choisir l'efficacité, éviter de nous éparpiller et poser dès maintenant des bases solides pour la reconstruction. C'est ce qu'explique le président du gouvernement qui appelle à se concentrer sur l'essentiel.
Les mesures mises en place doivent être le plus efficaces possible et produire des effets rapides. Notre mission est d'apporter un soutien déterminé à nos services publics et à notre économie. Pour cela, nous devons rester concentrés et orienter nos actions en fonction de leur impact réel. L'action du gouvernement se résume finalement en un mot, pragmatisme. Ce n'est ni une question d'idéologie, ni une doctrine. Notre responsabilité est d'obtenir des résultats concrets en soutenant la Nouvelle-Calédonie et en jetant les bases de son avenir. Nous avons peu de temps, mais nous avons un cap clair. À nous de nous en montrer dignes.
Le président du gouvernement a ensuite détaillé secteur par secteur les mesures envisagées. Plusieurs d'entre elles d'ailleurs avaient déjà été esquissées. Il faut d'abord assainir la situation et notamment les finances publiques. La situation financière de la Nouvelle-Calédonie s'est fortement dégradée, avec notamment, relève Alcide Ponga, un niveau d'endettement qui avoisine les 300%.
Cette réalité budgétaire impose des choix clairs et responsables. Pour préparer le budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie, nous devons impérativement conjuguer deux exigences. Poursuivre la maîtrise rigoureuse de nos dépenses, tout en préservant la capacité d'investissement et de développement. Il s'agit d'un équilibre délicat, mais nécessaire pour assurer la pérennité de nos institutions et préserver l'avenir de notre territoire. Nous devons faire preuve de responsabilité, d'anticipation et de volonté. La situation est difficile, mais elle n'est pas insurmontable.
Réduction des dépenses, mais pas d'augmentation de la fiscalité. Et au chapitre des secteurs à assainir, le président du gouvernement évoque aussi l'amélioration de la performance de l'administration ou le rééquilibrage du système de santé. Le deuxième axe, c'est la relance, celle de l'économie et des investissements, et d'abord celle du secteur minier.
Les secteurs miniers et métallurgiques sont des piliers historiques de notre développement. Ils traversent actuellement une crise grave et leurs redressements sont impératifs. L'industrie du nickel et les enjeux énergétiques sont intimement liés. Avec le soutien de l'État, il nous faut mener un travail sur le prix de l'énergie à court terme pour sauver ce secteur. En parallèle, nous engagerons une réflexion plus approfondie qui intègre l'utilisation des énergies renouvelables pour améliorer notre compétitivité tout en réduisant notre impact environnemental.
Mais Alcide Ponga fixe également des objectifs en faveur de l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie ou encore de la diversification de l'économie. La troisième orientation de cette déclaration de politique générale, c'est faire ensemble et il trace des pistes en matière d'éducation, de santé, mais aussi de jeunesse.
Dans le secteur de la jeunesse, qui est un secteur partagé entre les institutions calédoniennes, beaucoup d'actions ont été réalisées par le passé et il faut poursuivre l'effort. Cependant, une partie de cette jeunesse s'est exprimé ces derniers temps en questionnant sa place au sein de notre société moderne. Il est donc de notre devoir, et ce de façon responsable, coordonnée et cohérente, d'apporter des réponses en la guidant vers la valeur du travail, la cohésion sociale, son épanouissement individuel ou collectif, ou vers une identité calédonienne diversifiée et multiculturelle.
En conclusion, Alcide Ponga appelle à imaginer un modèle sociétal renouvelé, inclusif et durable, qui garantit un avenir aux Calédoniens dans la confiance, la paix et la stabilité. Et pour lui, il faut s'interroger sur ce que nous voulons.
Un peu plus de 30 ans après la poignée de main, en 1988, nous voici nous-mêmes à l'heure du choix. Un choix collectif, bien sûr, mais tout d'abord, un choix individuel. Que voulons-nous laisser à nos enfants ? Il est vrai que la violence de 2024 a beaucoup détruit. Et aussi que nous affrontons une crise sans précédent dans toute notre histoire. Mais nous sommes encore debout, et il n'est pas trop tard. Il n'y aura pas de marche en arrière, il n'y aura pas de retour au bon vieux temps. Ce que nous avons perdu peut se reconstruire, mais il ne suffira pas de tendre la main ou d'attendre. Il faut nous mettre au travail. Si nous n'avons ne serait-ce qu'une chance de redonner un avenir à nos enfants, nous devons la saisir. Et plus nous serons nombreux à prendre ce chemin, plus la réponse qu'apportera notre génération se dessinera. C'est un héritage dont nous pourrons tous être fiers.
Une déclaration de politique générale sur laquelle nous reviendrons demain midi en compagnie du président du gouvernement. C'est en effet Alcide Ponga qui sera demain midi notre invité dans le magazine Transparence.
Une déclaration de politique générale du président du gouvernement sur laquelle les différents groupes politiques ont réagi.
Avec sans surprise le soutien des partisans de la France, loyalistes et rassemblements, il salue un gouvernement d'action comme François Suvet, le chef du groupe Les Loyalistes.
Le président Ponga s'est engagé à mettre en œuvre les mesures de réduction des dépenses pour redresser nos finances publiques et aussi remonter la Nouvelle-Calédonie. C'est une bonne chose, tout comme il a annoncé qu'il n'y aura pas d'impôts nouveaux. Nous le soutenons totalement dans cette démarche, de même sur l'attractivité du territoire avec la simplification et une fiscalité qui sera adaptée mais sans pression fiscale supplémentaire. Sur l'évolution du système de santé avec notamment la numérisation, ce sont vraiment des choses qu'on porte et nous allons tout à fait dans ce sens.
Chez les indépendantistes, l'UNI souligne par la voix de son chef de groupe Jean-Pierre Diaoué que l'urgence de l'urgence, c'est de sortir de la situation difficile de la Nouvelle-Calédonie après les émeutes de mai. Et il pense que la déclaration de politique générale va dans ce sens.
J'ai retenu dans son discours pragmatisme, travailler ensemble, combattre les inégalités sociales. Je crois que ce sont des mesures importantes à prendre. Il a évoqué également le problème de la jeunesse. Je crois que le président du gouvernement, en collégialité avec les membres du gouvernement, ils ont tracé la feuille de route jusque dans les 9 mois qui arrivent. Je crois que ce sont les actions urgentes à mettre en œuvre.
Calédonie Ensemble se dit d'accord avec beaucoup de principes de la déclaration de politique générale, mais Philippe Dunoyer se dit surpris qu'il n'y ait pas davantage de mesures de soutien aux entreprises. Quant à l'éveil océanien, il attend des actes, déclare Vaïmoa Mouliava.
C'est une déclaration de politique générale très ambitieuse au regard du temps qui nous reste et nous espérons qu'il y aura des priorités dans les priorités qui ont été énoncées. En tout cas, nous espérons qu'il y aura assez de paroles et puis beaucoup plus d'actes. Et puis on espère une meilleure coordination entre le gouvernement et le Congrès parce que vous savez que pour appliquer tout ça, il faut une meilleure coordination. Donc on va rester attentif et puis essayer d'aider au mieux de là où nous nous trouvons.
Et les élus du groupe UCF-LNCS n'ont pas souhaité réagir à la déclaration de politique générale, alors que Gilbert Thuénon et Samuel Népéoun étaient absents ce matin du banc du gouvernement.
Attendu samedi sur le territoire, Manuel Valls était auditionné hier en fin d'après-midi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il a été interrogé sur la situation des Outre-mer et notamment sur la situation de la Nouvelle-Calédonie.
Le ministre des Outre-mer assume ses propos récents qui ont provoqué de vives réactions chez les partisans de la France. Mais il a d'abord dressé le bilan de ses récentes discussions bilatérales avec les groupes politiques.
Il y a trois constats majeurs qui émergent de ces discussions. La gravité du moment, une économie par terre et des fractures profondes, des morts en mai dernier, la gravité du moment qui impose la responsabilité. Et l'histoire récente nous oblige à dépasser des clivages qui existent, bien sûr, pour éviter toute nouvelle escalade. C'est ma première responsabilité. Deuxième constat, c'est la volonté d'un compromis politique. Chacun, évidemment, l'aborde avec la même préoccupation. Enfin, la sortie de l'accord de Nouméa ne peut être envisagée sans une réflexion approfondie, éclairée malheureusement par les enseignements des événements de mai-juin 2024.
Pour la suite, lors des discussions à venir, Manuel Valls veut s'appuyer sur l'accord de Nouméa. Il reste le socle de référence, dit-il, en affirmant que c'est le fondement juridique et politique, même s'il reconnaît qu'il faut maintenant écrire une nouvelle page.
Mais évidemment, le moment est venu d'écrire une nouvelle page. Il s'agit avant tout, et chaque mot est important, d'appréhender la trajectoire engagée par cet accord en tenant compte, bien évidemment, des résultats des trois référendums, des évolutions politiques récentes, mais aussi des violences de mai 2024. Il y a un avant et un après ces violences. Tous les acteurs politiques, indépendantistes ou non indépendantistes, le reconnaissent.
Le ministre des Outre-mer a également été interrogé sur ses déclarations concernant la souveraineté partagée ou pleine et entière de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls assume ses propos en se référant au point 4 du préambule de l'accord de Nouméa. Mais il explique aussi qu'aujourd'hui, plusieurs éléments nécessitent une réévaluation du cadre politique. Il s'agit du troisième référendum qui laisse, dit-il, un sentiment d'inachevé, sans que sa légitimité soit remise en cause. Ce sont aussi les violences de mai 2024. Manuel Valls préconise désormais une approche sereine et pragmatique pour les discussions à venir, en souhaitant trouver un équilibre juste et durable entre des aspirations qu'il croit réconciliables. Sur cette base, il ne renie pas ses propos sur la pleine souveraineté avec la France. C'est selon lui un concept à nourrir et il appelle chacun à faire preuve d'une grande responsabilité.
Je comprends à la fois les aspirations à la pleine souveraineté des indépendantistes et je comprends parfaitement le profond attachement à la France de nos compatriotes qui sont contre l'indépendance. Et je leur ai dit, je me suis mis, même si ce n'est pas évident, dans la tête de chacun pour essayer de comprendre comment on peut avancer. Il n'y a pas d'autre choix si l'on veut éviter la guerre civile et de nouveau les drames. Et je pense qu'il y a sur place des hommes et des femmes qui ont toutes la capacité, la responsabilité d'avancer.
Manuel Valls, qui s'exprimait lors d'une audition de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, il est attendu samedi en Nouvelle-Calédonie. Il débutera sa visite par un dépôt de gerbes à la Croix de Lorraine de Nouméa. Son programme n'a pas encore été rendu public, mais il devrait effectuer des déplacements à Ouvéa, dans les communes de Lafouet, de Bouloupari et dans la province Nord. Il devrait également rencontrer les institutions avant de consacrer les mercredis, jeudi et vendredi aux discussions politiques. Un calendrier à prendre, bien sûr, au conditionnel.
Il est 17h59, une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant la rentrée solennelle de la justice.
Profitez de votre jardin avec Jardiland Nouméa. Jusqu'au 4 mars, notre débroussailleuse à guidon 33 cm3 JDI est à 14 900 francs seulement. Alors n'attendez plus pour prendre soin de votre jardin. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici. Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Jean-François Boudin.
L'année judiciaire 2025 officiellement ouverte. Ce matin, la Cour d'appel et le tribunal de première instance ont fait leur entrée solennelle. Devant les autorités civiles et militaires, les représentants du tribunal ont accueilli leurs nouveaux collègues lors d'une cérémonie. C'était aussi l'occasion de dresser le bilan de l'année 2024, marqué par le traitement judiciaire des violences de mai. Le premier président, Gilles Rosati, a cité Montesquieu. La justice est le dernier rempart contre la barbarie des hommes. Avant que Bruno Dalle, le procureur général, ne martèle que la justice en Nouvelle-Calédonie n'est ni coloniale ni laxiste. Ce fut évidemment une année hors norme pour la juridiction. La Chambre de l'instruction voit le nombre de nouvelles affaires plus que doublé, passant de 57 dossiers en 2023 à 126 en 2024. Les affaires enregistrées ont bondi de 30%. La majorité des affaires concernent des atteintes aux biens, 59%. Viennent ensuite les atteintes aux forces de sécurité intérieure, 31%. Enfin, les atteintes aux personnes, 10%. Écoutez Yves Dupal, le procureur de la République.
Plus de 2520 gardes à vue, près de 500 déferments. Nous avons créé 40 audiences supplémentaires pour permettre de traiter ce contentieux. Et la justice a rempli ses missions en agissant d'abord en toute indépendance, avec objectivité et impartialité dans le traitement des procédures pénales. C'est vrai que c'est un traitement hors norme pour une juridiction de cette taille. Ces 500 déferments, uniquement pour le contentieux des émeutes, en fait, ça correspond à notre chiffre annuel de déferments en année courante. Ça justifiait d'abord des renforts au niveau des services d'enquête. Et puis en interne, nous avons fort heureusement bénéficié d'un renfort de magistrats et fonctionnaires pour nous permettre de faire face.
En 2025, la justice continuera de traiter les contentieux liés aux émeutes et retrouvera également une activité plus classique avec des priorités qui resteront la lutte contre les violences intrafamiliales, contre les addictions ou encore l'insécurité routière. Pour ce début d'année, les ressources humaines ne sont pas suffisantes au tribunal. Les arrivées de nouveaux personnels de justice ne comblent pas les départs de l'an dernier.
Actuellement, certains postes effectivement sont vacants, couverts par certains magistrats brigadistes jusqu'au 30 avril. Nous, ce que nous souhaitons, c'est effectivement pouvoir bénéficier très rapidement des effectifs pour combler l'ensemble de nos services. Vous savez, dans cette juridiction, l'état d'esprit des personnels de justice est de répondre aux attentes des justiciables. Donc nous ferons tout pour effectivement répondre à ces attentes, quel que soit le contentieux, contentieux pénal, contentieux civil, contentieux commercial, parce que c'est notre mission. Et je crois que nous pouvons compter sur l'engagement professionnel des magistrats, du siège, du parquet, des fonctionnaires de justice pour effectivement remplir toute notre action.
À noter que lors de cette audience, le procureur général Bruno Dalle a confirmé son prochain départ de Calédonie. Dans sa prochaine affectation, il aura pour mission de lutter contre la fraude fiscale à Monaco. Moment solennel aujourd'hui à la communauté du Pacifique à Lanzvata. 16 agents des douanes ont été récompensés pour leur engagement sur le territoire, notamment lors de la crise insurrectionnelle l'an dernier. Le directeur national des douanes leur a remis en personne leur médaille, Charlotte Coulson.
18 distinctions ont été remises en tout à 16 douaniers, un militaire et un policier. Des agents au service de la France dont l'engagement est allé bien au-delà de ce qu'on attendait d'eux l'an dernier. Aujourd'hui, ils se sont vus remettre la médaille d'honneur des douanes. Une cérémonie au cours de laquelle le haut-commissaire Louis Lefranc a salué l'engagement de ces agents de la République.
C'est une cérémonie qui a été effectuée à l'initiative du directeur des douanes pour l'ensemble de ces hommes qui se sont vraiment engagés admirablement dans la gestion de cette crise induite par les émeutes. Ils sont allés bien au-delà de leur mission, c'est-à-dire qu'ils ont contribué, par exemple, à assurer la continuité alimentaire des populations de la Nouvelle-Calédonie. Entre celles qui étaient isolées en brousse, celles sur le Grand Nouméa n'étaient pas provisionnées correctement parce que le port était quand même sérieusement pénalisé. Et donc il fallait que ces deux points stratégiques que sont le port et l'aéroport puissent fonctionner pour permettre à la population de la Nouvelle-Calédonie, dans son ensemble, de ne pas être doublement ou triplement handicapée. Et la gestion de cette crise, on l'a leur doit. C'est vrai que quand on voit un douanier, on se dit bon, il va contrôler ce qu'on a dans nos valises. Mais là, ils ont fait bien plus que ça.
Et cela n'arrivera peut-être qu'une fois au cours de leur carrière. Les douaniers se sont vus remettre leur médaille par le directeur national des douanes, Florian Collat. Il est venu sur les territoires spécialement pour saluer le travail de ses agents.
C'est principalement pour cette raison que je suis venu. L'ensemble des agents de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie a été extrêmement mobilisé au cours des 6 derniers mois et très fortement au cours de la crise qu'a connue le territoire en mai dernier. Et donc, effectivement, l'objectif de cette venue, c'était de pouvoir rendre hommage à l'ensemble des services, aller rencontrer les agents et puis organiser cette cérémonie de remise de la médaille d'honneur des douanes à 16 douaniers, un militaire et un policier, pour les remercier de leur engagement. C'est évidemment toujours des cérémonies très émouvantes. C'est ma responsabilité, mon devoir en tant que directeur général, de mettre à l'honneur nos équipes, nos agents, surtout quand ils font preuve d'un engagement, d'un dévouement aussi exceptionnel.
Et pour les 18 récompensés, c'est évidemment une grande fierté de recevoir cette médaille. L'agent Hervé est douanier à la Brigade des douanes de Nouméa. C'est une cérémonie dont il se souviendra.
Recevoir la médaille d'honneur des douanes aussi jeune en début de carrière, c'est quelque chose d'historique et de remarquable. Donc c'est une grande fierté. Fierté d'être douanier et fierté d'avoir œuvré et contribué à ce qui s'est passé pendant la crise insurrectionnelle. Donc voilà, c'est la récompense aujourd'hui. On ne l'a pas fait pour ça, mais on est très heureux de l'avoir reçu. D'autant plus que le directeur général a fait le déplacement de Paris. Donc c'est pas anodin dans une carrière de fonctionnaire.
Et rappelons que récemment encore, les agents des douanes ont brillé par la saisie de près de 76 tonnes de tabac sur un bateau de contrebande au large des côtes calédoniennes.
Autre cérémonie pour les sapeurs-pompiers de Nouméa qui ont été distingués cet après-midi, la cérémonie de remise de grades, de médailles et d'insignes a débuté à 17h à la caserne Lucien Parent. 12 sapeurs-pompiers volontaires et 11 sapeurs-pompiers professionnels sont promus au grade de sapeur première classe à lieutenant, sont également remis deux insignes de chef de centre et 5 médailles d'honneur d'ancienneté, une en bronze, une en argent, 3 en or. La cérémonie se déroule en présence notamment du haut-commissaire, du maire de Nouméa et du président du gouvernement. L'intelligence artificielle au service des entreprises, c'était le thème des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, ce midi en présence notamment de Christophe Legrenzi, spécialiste de la question actuellement sur le territoire. Le développement ultra rapide de cette technologie nécessite une adaptation progressive et une prise en main de l'outil pour en comprendre le fonctionnement, mais elle peut être utilisée dans de nombreux secteurs du monde de l'entreprise, quelle que soit sa taille, a expliqué Christophe Legrenzi.
Alors ce qui est impressionnant, c'est que c'est effectivement tous les domaines, c'est-à-dire ça va toucher l'ensemble des collaborateurs, aussi bien sur les activités effectivement de communication commerciale, avec des présences via des chatbots, des avatars, des callbots 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en même temps avec une accessibilité, avec des traductions automatiques et autres. Donc ça permet aussi d'attirer sans doute plus de clients, et ça je pense que les PME néo-calédoniennes doivent s'intéresser à ce sujet, puis ouvrir aussi des marchés, bien entendu. On va le retrouver aussi dans toute la production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on va lier les mécanismes d'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, les IoT, la robotique, et là aussi, on a déjà des applications qui sont très convaincantes, et on l'a aussi en recherche et développement, et puis évidemment, pour les fonctions de support, c'est une évidence. On voit que la qualité rédactionnelle aujourd'hui est bien supérieure et la productivité du collaborateur aussi, après des petites formations, de l'ordre de 10 à 40% à peu près.
Et pour bien utiliser l'IA dans les entreprises, il convient de se familiariser avec, a expliqué Thomas Avron. Il est le coprésident de la commission Data et IA du cluster OpenNC.
Les entreprises calédoniennes sont plutôt réticentes à aller vers de l'IA non maîtrisée. Donc on constate que de toute façon, l'IA est déjà rentrée dans les entreprises calédoniennes via les utilisateurs finaux, donc vos collaborateurs qui vont aller interroger ChatGPT pour leurs tâches quotidiennes, dès qu'ils ont une question à laquelle ils n'arrivent pas à répondre ou dans laquelle la société ne peut pas répondre. Donc l'IA est déjà au sein des entreprises. C'est là où il faut éduquer aux usages, non seulement au niveau du top management, mais aussi les collaborateurs. Parce que les problématiques de cette IA non maîtrisée, c'est la fuite des données, c'est la non-souveraineté sur les données, c'est des risques de cybersécurité. L'IA reste de toute façon un outil. Ce n'est pas une boîte magique qui répond à toutes les questions. C'est un outil. Donc comme tout outil, l'important, c'est d'apprendre à l'utiliser, de l'utiliser parce que sinon la fracture numérique va s'amplifier avec des gens qui seront des sachants des usages de cet outil et des gens qui seront laissés de côté.
Une émission à laquelle participait également Stéphane Yotto, le vice-président de la CCI. Elle est à retrouver en intégralité sur notre site internet. Et pour ceux qui s'intéressent au sujet, Christophe Legrenzi anime en ce moment même une conférence dans l'auditorium de la CCI. Elle a commencé à 18h. Conférence à suivre sur le Facebook Live de la CCI. En bref, Christopher Gigès, membre du gouvernement chargé de l'économie, organise demain matin un séminaire sur le pouvoir d'achat à la station N. Il s'agit d'instaurer un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs concernés pour bâtir, dit-il, une stratégie concertée pour améliorer la situation. Et puis le tourisme s'est effondré l'an dernier après les émeutes du mois de mai. Quelles sont les tendances observées ces dernières semaines et quelles stratégies sont mises en œuvre pour faire revenir les touristes et les croisiéristes ? Julie Laronde, la directrice générale de Nouvelle-Calédonie Tourisme, sera demain notre invitée à 7h30. Et on passe à notre rubrique spéciale Souvenirs de rentrée.
Mazda vous offre les pages Souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
C'est le petit plus sur Radio Rythme Bleu pour cette rentrée scolaire. Un chef d'établissement nous raconte ses souvenirs de rentrée et nous parle aussi de l'évolution de son métier. Ce soir, la parole au proviseur du lycée Augustin Thi de Touhot, Richard Mouchel.
C'est quand j'étais dans un petit village de Normandie, au collège de Sainte-Mère-Église, ma première rentrée en sixième. On avait une rumeur qui courait comme quoi on nous volait toutes nos affaires. Il fallait vraiment se faire peur des plus vieux. Ce qui fait que pendant deux jours, peut-être même plus, trois jours, avec un camarade de classe qui venait de comme moi du même CM2, eh bien, on a monté la garde devant nos affaires à chaque récréation et à chaque repas, enfin chaque temps du midi, jusqu'à qu'on se rende compte que c'était des bêtises et qu'on pouvait laisser nos affaires tout à fait tranquillement. Moi, ce que je retiens de ça, c'est surtout que on était mal informés à l'époque, on arrivait un petit peu dans l'inconnu, on n'était pas accompagnés.
Est-ce que vous avez remarqué des évolutions justement par rapport à cette époque ?
Oui, alors il est vrai que ça fait plus appel au métier de principal de collège que de proviseur de lycée, mais j'ai été principal de collège pendant longtemps. Et les choses sont totalement différentes aujourd'hui. Il y a un accompagnement qui se fait dès le CM2. Les élèves visitent le collège, on les rassure, on leur fait rencontrer les professeurs, leurs camarades. Et puis, le jour de la rentrée, les parents accompagnent. Enfin, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, un élève de 6e, il arrive, il est préparé à son passage en 6e. Il y a une continuité entre l'école et le collège qui est organisée. On n'est pas du tout dans le même univers et dans le même monde. Au niveau des programmes, les choses ne sont pas enseignées de la même façon, ça c'est certain. Ce qu'on peut noter comme différence notable, c'est le soin qu'apportent les enseignants, parce que ça leur est demandé à la prise en charge des élèves. Nous, on avait des très bons enseignants, mais en gros, c'était fait pour des élèves qui suivaient, et puis ceux qui ne suivaient pas, tant pis, on les réorientait. Je pense que de ce point de vue-là, ça a énormément évolué.
Richard Mouchel, proviseur du lycée Augustin Thi de Touhot, des propos recueillis par Charlotte Coulson.
C'était les pages Souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez-nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Et à 18h13, une nouvelle pause dans ce journal. À suivre l'actualité dans la région avec un échouage massif de fausses orques en Tasmanie et le sport.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite ? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Avec la Calédonienne des Eaux, payez vos factures en toute simplicité. Des bornes de paiement sont là pour vous, proches de chez vous. Profitez d'un service pratique et rapide. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Avec l'actualité dans la région et en Australie, 157 fausses orques se sont échouées en deux jours sur une plage du nord-ouest de la Tasmanie. Une dizaine d'entre elles n'a pas survécu et après avoir tout tenté, les autorités ont finalement décidé d'euthanasier les 90 fausses orques qui avaient survécu à cet échouage massif. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cet échouage s'est produit ces dernières 48 heures sur une plage très isolée du nord-ouest de la Tasmanie. Alertées, les autorités locales ont tenté en vain de remettre plusieurs fois à flot les mammifères les plus résistants, mais leurs efforts n'ont rien donné. Entre-temps, des dizaines de ces fausses orques, également appelées pseudorques ou faux épaulards, avaient déjà succombé. Décision a donc été prise pour leur bien-être d'euthanasier les 90 mammifères qui étaient encore en vie. Le biologiste marin en charge de l'opération a indiqué que, je le cite, « la méthode la plus efficace au monde consiste à utiliser une arme à feu et c'est donc cette méthode qui sera employée ». À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et on termine avec l'actualité sportive en bref du tennis. En simple comme en double, Maxime Chazal poursuit son aventure au Congo. Le Calédonien tête de série numéro 4 du Challenger de Brazzaville disputera à 23h30 pour nous ce soir les huitièmes de finale du tableau de simple face au Bulgare Dinko Dinev. En double, aux côtés d'un autre Français, Geoffrey Blancano, il jouera les demi-finales demain matin contre la paire tête de série numéro 2 du tournoi. Et puis un mot de football, la sélection U20 de Nouvelle-Calédonie continue sa préparation à la Coupe du Monde. Pierre Wadjoka a convoqué 30 joueurs pour une opposition prévue samedi à partir de 16h à Boulou Paris. Une phase d'identification et d'évaluation des jeunes joueurs dans l'optique de constituer une équipe la plus compétitive possible, a-t-il expliqué. Le mondial des moins de 20 ans, je vous le rappelle, aura lieu fin septembre, début octobre au Chili. C'est l'heure de la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo des heures qui viennent avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, le ciel restera chargé. Des averses fortes et parfois orageuses circuleront d'abord des loyautés à la pointe sud et l'île des Pins, puis elles s'étendront à la côte est et la moitié sud de la Grande Terre. Elles seront plus rares et faibles sur les autres régions. La lisée de secteur sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds en général. Il faiblira localement sur le sud entre 10 et 15 nœuds et sur le nord-est autour de 5 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 23 et 26 degrés. Demain matin, le ciel sera souvent très nuageux, parfois couvert. Sur l'est, le nord et le nord des loyautés, des averses modérées circuleront. Elles pourront déborder localement sur le nord-ouest. De rares averses faibles sont attendues sur les autres régions, notamment près de la pointe sud. La lisée d'est-sud-est soufflera autour de 15 nœuds, localement sur le nord-est et Bélep, entre 15 et 20 nœuds, Jean-François.